VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Aujourd'hui, troisième journée de la Convention nationale du Parti républicain à Cleveland dans l'Ohio. Donald Trump est désormais le candidat officiel du parti au présidentiel de novembre après son investiture à ce poste mardi par les délégués à la Réunion. Le milliardaire veut maintenant souder les républicains avant d'affronter aux élections Hillary Clinton, la candidate présumée du Parti démocrate. Pour le programme des activités à la convention ce mercredi, rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux à Cleveland, Nicolas Pineau.
Tout le monde attend deux discours, l'un celui du sénateur Ted Cruz qui a été un adversaire farouche lors du processus des primaires contre Donald Trump. Et c'est important puisqu'on parle d'unité du Parti républicain. C'est un exemple, on ne sait pas vraiment ce qu'il va dire, on ne sait pas s'il va se rallier à Donald Trump pleinement ou plutôt critiquer Hillary Clinton, mais en tout cas cette présence est très importante. Et puis le discours le plus important de la soirée, ce sera celui prononcé par le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Il est le colistier de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il deviendrait vice-président des États-Unis en cas de victoire lors de la présidentielle de novembre prochain. Mike Pence le dit lui-même, je suis un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Alors tout le monde attend ce grand discours. À noter que Donald Trump sera à nouveau présent ce soir ici à Cleveland. Nicolas Pineau, Cleveland, VOA Afrique.
Le candidat à la vice-présidence Mike Pence est donc à l'honneur aujourd'hui. L'occasion de parler de son poste à la vice-présidence. Quels sont les critères de sélection d'un candidat à la vice-présidence? Que cherche le candidat à la présidence dans son colistier? La réponse avec notre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Sedoudia.
Bon, les critères de sélection, en général, c'est par souci de dosage ou équilibre idéologique ou régional que l'on choisit son colistier pour mieux unifier le parti. Mais Henri, il faut dire que ça aide rarement. Par exemple, en 2004, le libéral John Kerry du Massachusetts avait choisi son rival John Edwards, un sudiste et conservateur, mais cela ne l'a même pas empêché de perdre même l'état natal d'Edwards, la Caroline du Nord.
Donc, ces critères de sélection ne garantissent pas le succès. Alors, parlons maintenant de l'importance de la vice-présidence. Pendant longtemps, il a été dit que les vice-présidents allaient simplement aux obsèques ou se contentaient de surveiller la santé du président. En fait, ils ont beaucoup plus d'importance que cela depuis Jimmy Carter, par exemple.
Oui, oui, avec Jimmy Carter, ça a commencé avec Jimmy Carter qui avait promis à Walter Mondale d'en faire vraiment son partenaire. Et il faut dire qu'aussi, Walter Mondale avait beaucoup plus d'expérience que Jimmy Carter pour ce qui est de Washington. Il était sénateur du Massachusetts, était aussi l'un des alliés, l'un des grands personnages du Parti démocrate, l'ancien vice-président Hubert Humphrey. Donc, il avait besoin de Mondale et sincèrement, ils ont eu un partenariat très fructueux.
On peut aussi parler du partenariat entre le président Reagan et son vice-président George Bush. Reagan a même fait campagne pour George Bush quand il a été lui-même candidat à la présidence et il l'a aidé à remporter la victoire.
Oui, il se trouve que en réalité, c'était surtout à cause de la personnalité de Ronald Reagan. Les gens voulaient sincèrement un troisième mandat Reagan. C'est pourquoi George W. Bush a pu passer. Mais si vous regardez l'histoire récente des États-Unis, peut-être même l'histoire des États-Unis, le vice-président en général, n'est pas élu quand il se présente et ce pauvre vice-président se retrouvait là et les gens le rejetaient. Donc l'histoire n'a pas été très tendre avec les vice-présidents pour ce qui est de leur tentative de se faire élire tout seul.
Le dernier vice-président à accéder à la présidence a été George H.W. Bush, le successeur de Ronald Reagan et c'était il y a déjà 28 ans. Merci, c'était Idrissa Sedoudia, notre envoyé spécial à Cleveland, dans l'Ohio.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On passe maintenant à l'Afrique, au Mali. 17 soldats maliens ont péri hier dans l'attaque contre leur base à Nampala, dans le centre du pays. Bamako a dénoncé une opération terroriste coordonnée et promis une réponse appropriée. Deux groupes armés ont revendiqué l'attaque, les djihadistes dans Sardine et une organisation Peul. Il y a eu une nouvelle incursion d'hommes armés à Nampala dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé un élu local. Afrique du Nord, 3 militaires français sont morts dans un accident d'hélicoptère en Libye. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président français François Hollande, confirmant ainsi pour la première fois la présence de soldats français dans le pays. La Libye connaît une instabilité dangereuse. C'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes, a affirmé le président Hollande. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement dans ce pays, a-t-il souligné. En Tunisie voisine, le président Bedji Caïd Essebsi a annoncé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier. Le point avec Chérubin Dorsil.
La mesure annoncée hier par la présidence entre en vigueur demain 21 juillet. Elle accorde aux autorités le droit de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder l'ordre public et la sécurité nationale. Notamment, elles pourront interdire les grèves, empêcher certains rassemblements, fermer provisoirement des commerces et exercer un certain contrôle sur les médias. L'état d'urgence a été instauré en Tunisie en novembre dernier suite à un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. C'était le 3e attentat de l'année revendiqué par Daesh. Les djihadistes ont récidivé en mars de cette année en attaquant des installations sécuritaires à Ben Gherdan, ville limitrophe de la Libye.
Afrique australe maintenant, 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. Alors que la pandémie a déjà fait plus de 30 millions de morts, les participants à la rencontre de Durban ont fait le constat que les recherches d'un remède prendront encore du temps. En attendant, il faudra poursuivre les efforts de prévention. On écoute le docteur Zogo, un médecin s'occupant de personnes vivant avec le VIH à Cape Town en Afrique du Sud.
Juste avant l'ouverture officielle, il y avait des associations et des organismes réunissant les malades de VIH et avec un message strict disant s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, il n'y aura pas moyen de stopper le sida. Et c'était un message lancé pour que le financier puisse mettre la main à la pâte pour qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans les domaines. L'Organisation mondiale de la santé a pris la nouvelle stratégie de pouvoir tester et soigner. Mais déjà, ici en Afrique du Sud, on parle d'appliquer cette nouvelle stratégie au plus tard au mois de septembre. Et il y a déjà des discussions au niveau des pays des BRICS. Les BRICS réunis, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et il voudrait voir au niveau du BRICS comment implémenter cette nouvelle stratégie.
Le docteur Zogo joint Durban en Afrique du Sud. Au Zimbabwe voisin, le président Robert Mugabe accuse le chef de file de la Fronde sociale d'inciter à la violence. Le numéro 1 zimbabwéen a pour la première fois réagi aux déclarations du pasteur Evan Mawarire depuis que des appels aux grèves et aux manifestations se multiplient dans son pays. Eddie Sango.
Robert Mugabe affirme ne pas connaître cet homme de Dieu qui a réussi par ses diatribes à s'imposer comme chef de la Fronde. Il remet toutefois en cause ses qualités de ministre de l'Évangile, car pour lui, un véritable prédicateur baserait son message sur la paix plutôt que sur la contestation sociale. Monsieur Mugabe a violemment critiqué le pasteur Evan Mawarire lors des obsèques d'un responsable gouvernemental à Harare. Il l'a accusé d'inciter à la violence. Le pasteur, loin de s'en prendre directement au président Mugabe, a lui réaffirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. Le Zimbabwe a connu ces dernières semaines une série de manifestations et de grèves, un mouvement rare dans ces pays contrôlés d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980.
On revient à l'actualité américaine. Après 2 ans de lutte contre l'État islamique, les États-Unis réunissent ce mercredi et jeudi les membres de leur coalition militaire internationale anti-djihadiste. Alors que le groupe djihadiste État islamique multiplie les attentats dans le monde. Pendant 2 jours, le secrétaire d'État John Kerry et le ministre de la Défense Ashton Carter vont accueillir une quarantaine de leurs homologues, notamment les Français Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian, dont le pays vient d'être frappé. L'organisation ultra-radicale a perdu sa capacité à conserver des grands pans de territoire, mais elle est toujours capable de mener des attaques, comme on l'a vu à Nice, à Istanbul, Bagdad ou Dhaka. Des attaques qui ont fait des centaines de morts et blessés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.